rappelons d'abord que pour l'essentiel de ces cadres et de ces troupes d'élite, l'armée qui est intervenue en Algérie en 1954 venait d'Indochine. Là-bas, pendant 9 ans, sous une politique fluctuante et hésitante, elle avait découvert ce que pouvait être un conflit nouveau à caractère idéologique. Petit à petit, elle avait compris que la victoire découlait d'une manière égale de succès militaires sur le terrain, mais aussi de l'adhésion populaire, l'un et l'autre se nourrissant mutuellement. Et lorsque l'armée doit quitter l'Indochine en 1954, où elle a laissé tant de morts, tant de passions et une partie de son cœur, elle garde à jamais le souvenir lancinant des hommes et des femmes qui avaient cru en elle et qui, après son départ, ont été massacrés. Lorsqu'elle arrive en 1954 en Algérie, la situation lui paraît quand même plus claire. Certes, elle sait qu'il y a des réformes importantes, peut-être même révolutionnaires, qui doivent être faites pour répondre à certaines attentes, en particulier de la population musulmane, et pour couper à la racine la rébellion. Mais elle sait aussi qu'elle se trouve sur des départements français dont les plus hautes autorités politiques, de Guy Mollet à Pierre Mendès France en passant par François Mitterrand, ont dit que c'était une terre française. Certes, au début de 54 à 58, il y a eu des doutes venant de péripéties politiques sur lesquelles il serait trop long de s'attarder. Mais en 58, avec l'arrivée de Gaulle au pouvoir, l'objectif lui paraît clairement défini. Tout à l'heure, nous avons écouté ce que rappelait le colonel des engagements pris par de Gaulle, disant « Vive l'Algérie française, à partir d'aujourd'hui et maintenant, il n'y aura plus que 10 millions de Français à part entière. » Il y a aussi cette directive que de Gaulle donnait à l'armée et qu'ont reçu tous les chefs de corps et tous les officiers de l'époque. L'armée doit maintenir l'Algérie dans la France et la maintenir française. Pour un soldat dont le métier est de se battre et non pas de faire de l'exégèse, la situation paraissait très claire et l'engagement paraît irrévocable. C'est cette limpidité au niveau de l'objectif qui est l'atout essentiel qu'attend l'armée. Il doit permettre d'emporter cette adhésion populaire dont elle sait, l'armée, que cette adhésion est la clé de tout le reste. Car s'il y a adhésion populaire, il n'y a plus de soutien pour les bandes rebelles, et s'il n'y a plus de soutien pour les bandes rebelles, celles-ci deviennent vulnérables et peuvent être détruites. Mais comment obtenir cette adhésion populaire qui est la mission de l'armée? Eh bien, elle doit s'obtenir par la confiance offerte et la confiance acceptée. Et c'est là où l'engagement de l'armée, militaire bien sûr, et je n'évoque pas cet aspect parce que tout le monde l'a à l'esprit, mais c'est là où l'engagement de l'armée devient un engagement moral. Alors comment les choses se passent-elles sur le plan concret? Vous savez que sur tout le territoire de l'Algérie, il y avait un quadrillage d'unités et que chaque commandant de compagnie, chaque chef d'escadron, chef de peloton, chef de section, chaque sous-officier souvent, avait la responsabilité d'un territoire et surtout d'une population. Et les membres de cette population sont inquiets. Il y a la rébellion, il y a la propagande rebelle qui leur dit que la France va partir et il faut rassurer cette population. Chaque homme, chaque femme se demande, est-ce que je resterai français? Est-ce que l'armée va rester? Est-ce que je serai protégé? Est-ce que ceux qui veulent l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire qui veulent que l'Algérie ne reste plus française, est-ce que ces gens ne vont pas devenir des interlocuteurs privilégiés du pouvoir français? Est-ce que nous n'allons pas être les victimes de cette tragique aventure? Alors, c'est à ce moment-là qu'intervient l'officier, le sous-officier, parfois le simple soldat, au détour d'une piste, devant un café qu'on partage le soir à la tombée de la nuit. C'est à ce moment-là que, les yeux dans les yeux, d'homme à homme, le soldat français, l'officier français, le sous-officier, dit à ces hommes inquiets, tragiquement inquiet, nous restons. Vous pouvez avoir confiance en moi, ou tu peux avoir confiance en moi, ou vous pouvez avoir confiance en moi. Nous resterons, et si nous partons, il y aura d'autres comme nous qui viendront et qui vous protégeront. Et alors s'engage ce processus admirable, c'est que les meilleurs d'entre ces hommes prennent les armes et se battent avec nous, et se battent d'une manière magnifique, pour beaucoup de raisons, parce que c'est un peuple courageux, et puis parce qu'ils connaissent le pays et l'adversaire. Et si l'armée française a obtenu une victoire incontestée sur le terrain, c'est en grande partie grâce à ces hommes qui l'ont obtenu. Et en effet, la victoire avance. Zone par zone, ce qu'on a appelé la pacification, s'étend. Et l'Algérie, en 61, verrouillée à l'est, verrouillée à l'ouest, d'où lui venait l'essentiel de ses renforts, est un pays à peu près pacifié. Donc, cet engagement, je vous en ai parlé très simplement, parce que je crois que, comme toutes les choses importantes, les choses importantes sont des choses simples, et cet engagement qui était une chose très importante, qui était un engagement moral, qui engageait le plus important de nous-mêmes, était une chose très simple, d'homme à homme, et cet engagement a permis, sur le terrain, la victoire de l'armée française, composée en grande partie de gens du pays, de Français musulmans.
Oui, bien sûr.
Je n'évoquerai pas du tout on en parlera après ensemble, si vous voulez, de ce qui s'est passé, des barricades, du putsch, il y aurait beaucoup à dire. J'aurais quand même deux mots sur ce qui s'est passé en 62. Ça a été atroce. Il y a eu, bien sûr, la révolte du peuple pied-noir. Et on le comprend qu'il se soit révolté. Que feraient des Lorrains ou des Bretons si on voulait les chasser de leur province? Et ce peuple pied-noir a été mitraillé, sans défense, rue d'Isly. Hélas, par cette même armée dont il avait formé les cohortes les plus héroïques, sous les ordres du général de Lattre et Leclerc pour la libération de la France, ce peuple pied-noir a été mitraillé dans les rues de Babeloued, dans les rues d'Oran, il a été torturé à la caserne des Tagarins. Et finalement, il a été contraint d'abandonner cette terre qu'il avait fécondée, ces villes et ces villages qu'il avait bâtis, et d'abandonner ces cimetières qui aussitôt furent profanés. Mais si le pire est possible qu'il y ait eu pire, il y a eu ces milliers de musulmans français qui s'étaient battus avec nous, qui avaient obtenu la victoire avec nous, et qui, après ces étranges accords déviants, qui accordaient sans condition l'indépendance au seul FLN, son copain, notre interlocuteur, mais figuré autour de la table, qu'allait-on faire de ces hommes qui s'étaient battus avec nous? Alors, on les a désarmés, on leur a donné une aumône, et on leur a dit, revenez dans vos villages. Lesquels villages? À mesure que la France livrait zone par zone l'Algérie au FLN, redevenait sous contrôle FLN. Alors une question se pose. Une question se pose. Ne savait-on pas, à moins d'être idiot, ne savait-on pas quel sort tragique était réservé à ces hommes, à ces femmes qui s'étaient battues à nos côtés? Ne savait-on pas, à moins d'être idiot? Et il faut se poser la question. Et je pense que le colonel Bastien Thierry, quand il a pris une décision aussi grave que celle qu'il a prise, s'est posé la question. Et nous avons été un certain nombre. Ne savait-on pas? Et l'insoutenable a eu lieu. C'est-à-dire que ces hommes, ces femmes, parce qu'ils avaient cru en la France, et que la France les avait abandonnés, ont été massacrés, torturés, massacrés d'une manière épouvantable. Ces hommes et ces femmes, parce qu'ils avaient cru en la France et qu'ils avaient été abandonnés, ont été massacrés d'une manière épouvantable.